Radio Bonheur, 19h07, voici le magazine des déchaînés du football, comme tous les lundis soirs, entre 19h et 20h30, le magazine des déchaînés du football avec monsieur Gaëtan Pinel. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Le déchaîné du football sans Pierre-Henri Dufay ce soir.
Eh oui, exceptionnellement absent pour cette émission.
Il est parti en Italie, c'est ça?
Oui, ouais, ouais. Mais on l'entendra parce qu'il a préparé le podcast.
Pour assister à la finale d'hier soir. Hein,
exactement, c'est ça. Ouais. Espagne-France, mais il a construit le magazine, enfin le podcast Guingamp Classique. D'ailleurs, voilà, il a fait la promotion aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. On vous dévoilera le nom tout à l'heure, à 20h, quand viendra la partie Guingamp. Mais avant cela, évidemment, on va parler de Brest, de Lorient, mais aussi du foot amateur.
Oui, alors pas de football professionnel, évidemment, ce week-end, puisque l'équipe de France jouait notamment hier avec cette belle victoire contre l'Espagne en Italie, 2-1. Mais on a quand même joué chez les amateurs, effectivement. Opération moyenne pour Saint-Brieuc.
Oui.
Un bon match nul quand même, 0-0 avec Villefranche qui a tapé deux fois la barre.
Exactement.
Et Saint-Brieuc s'est créé aussi quand même des grosses occasions en fin de match, notamment. Saint-Brieuc aurait pu marquer. Bon, c'est logique ce match nul, 0-0, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, belle opération pour Concarneau qui s'envole, qui revient dans les hautes sphères de ce championnat de 3e division, de championnat de national. Concarneau qui est allé s'imposer à Châteauroux 2-0 également vendredi soir. Mais on va parler, comme à chaque fois dans cette première demi-heure, du Stade Brestois, Gaëtan.
Exactement, et dans un instant, on aura avec nous un ancien joueur du Stade Brestois, parce que pendant la trêve internationale, pas de match, donc on en profite pour revenir sur certaines époques qui ont marqué l'histoire des clubs que l'on suit. Et côté Brestois, on va remonter à il y a une quinzaine d'années avec un ancien attaquant. Il était là de janvier 2005 à juin 2006. Il a marqué plus d'une vingtaine de buts avec le Stade Brestois, 23 exactement en 62 matchs. C'est Robert Malm, l'ancien attaquant des Tizèf, qui a évolué dans bon nombre des clubs de Ligue 2, qui est maintenant d'ailleurs consultant sur beIN Sport sur la Ligue 2 aussi, championnat qu'il connaît et maîtrise à la perfection, un championnat donc dans lequel il a évolué avec le Stade Brestois, 29, on le disait, de janvier 2005 à juin 2006, 62 matchs et 23 buts au total. Robert Malm est avec nous, bonsoir Robert.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir pour revenir sur votre passage au Stade Brestois. On vous présentait justement il y a quelques instants. Vous avez joué un an et demi à Brest en janvier 2005. Vous étiez arrivé. Brest à l'époque était promu hein, dans ce championnat de Ligue 2. Revenait d'une longue période dans le foot amateur. Pourquoi à l'époque quitter Grenoble pour rejoindre Brest?
Pas alors pour être tout à fait franc, au départ je ne pensais pas du tout quitter Grenoble, pour être honnête. Ensuite, il y a eu, on va pas dire un coup de poker menteur, mais à l'époque Philippe Boursa, qui était le manager général, voulait que je vienne à Brest tout simplement. Et comme on dit dans le jargon, qui ne tente rien à rien, il a tenté le coup et ils sont tombés d'accord avec les dirigeants grenoblois à l'époque. Même si je vous avoue que sur le moment, j'étais quand même assez surpris quand même, parce que à cette période-là, je me souviens qu'à un moment de l'année, on devait jouer premier contre deuxième ou deuxième contre troisième, je sais plus, avec Brest. Entre oui. Brest et Grenoble, en tout cas, j'avais fait le match aller sous les couleurs de Grenoble à Le Blé. Et c'est vrai que, bon, certainement, sur ce match-là, j'avais dû certainement laisser un bon passage. Et Brest a tenté le coup et je me suis retrouvé effectivement en janvier 2005, je crois que ça devait être le 2 ou le 3 janvier, je me suis retrouvé du côté de Brest.
Oui, vous aviez marqué 9 buts avec Grenoble sur la première partie de saison. Et puis derrière, ça a enchaîné à Brest, parce que vous en avez marqué 11 sous les couleurs brestoises cette saison-là. Il y en a eu une, évidemment, qui a suivi aussi juste après. Est-ce que, Robert, vous vous souvenez de votre premier match de championnat avec le Stade Brestois?
Comme si c'était hier.
Ah, et alors, c'était quoi ce match?
C'était face à Guingamp. Alors, mon premier pas sous les couleurs brestoises, c'est en Coupe de France, face à Rennes. Mais mes premiers pas en championnat, c'était à Le Blé face à Guingamp, où on fait deux partout.
Et vous marquez en plus sur pénalty ce ouais. jour-là. Vous étiez sûr d'être adopté en marquant dans le derby contre Guingamp?
Bah, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir se faire adopter, mais au-delà de marquer, c'était déjà donné une image d'un joueur qui allait être investi plus qu'à 100%, qui allait être sans faille jusqu'au bout. C'est surtout ça qui était important, et de compter un élément de plus, parce que l'effectif était déjà de qualité. Parce que quand on a des garçons comme Marc-Antoine Fortuné qui était dans cet effectif-là, Laurent David, je vous cite les principaux qui viennent tout de suite en tête. Il y avait, ouais, Vincent Boulanger, il y avait Laurent Morestin, il y avait Eduardo de Oliveira, Cédric Alzéar, Yvon Bourgis, Basile de Carvalho est venu nous rejoindre quelques semaines après. Il y avait Olivier Guégan, Olivier Auriac, Jean-Luc Gauthier, ouais, pour vous citer voilà, de tête comme ça les noms qui me viennent tout de suite. Mais c'est vrai que on avait de quoi faire, et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de très beau à aller chercher à ce moment-là.
Et justement, vos 6 premiers mois sont absolument époustouflants. Vous marquez 11 buts en 19 matchs. C'est comme si, ouais, vous jouiez depuis des années finalement dans cette équipe brestoise.
C'est vrai que je suis arrivé, j'ai été adopté tout de suite. Voilà, je me suis mis au diapason du groupe, tout simplement aussi, parce que le groupe était déjà en train de faire c'est déjà une belle première partie de championnat. Il y a eu un début extraordinaire. Alors je pense que même à un moment donné, c'est peut-être mis à rêver de pourquoi pas de faire l'ascenseur rapidement aussi, d'aller pourquoi pas en Ligue 1. Ça a duré, je crois, jusqu'au match de 3. Où on fait match nul et nos chances pour monter là s'évanouissent, j'irais quasiment complètement. Ouais. Mais à ce moment-là, je pense que il y avait toute une ville, tout un club, beaucoup de personnes qui pensaient qu'on aurait peut-être pu effectivement. Alors à l'époque, il n'y avait pas les barrages, mais on aurait pu accrocher cette troisième place.
C'est vrai que c'était une belle saison pour le retour de Brest en Ligue 2, 9e place à l'arrivée pour le Stade brestois. Alors il y a cette saison 2005-2006 derrière qui est plus délicate. Bon, vous Robert, vous marquez quand même parce que vous êtes à 8 buts en Ligue 2, mais c'est vrai que pour le club, le maintien est arraché de justesse. Pourtant, il y avait eu le départ, c'est vrai, de Fortuné aussi devant, dont on parlait tout à l'heure, mais des joueurs comme Oliveira, Bourgis, Auriac, Guégan étaient restés des cadres de cette équipe. Qu'est-ce qui a fait que la continuité n'avait pas duré à l'époque dans la folle l'ascension du Stade brestois?
En général, on dit que la deuxième saison est un peu plus compliquée que la première. Alors, quelquefois, la première, c'est un peu plus compliqué, la deuxième se passe mieux, mais nous, ça avait été un petit peu le contraire. Et pourtant, on avait un effectif de qualité, parce que Steve Lana nous a rejoint. On a eu, alors de mémoire, je ne sais plus qui arrivait exactement à ce moment-là, mais c'est vrai que
Marco Cédric Yabeuf aussi qui est arrivé.
Cédric Yabeuf est arrivé, on a eu Mathias Verschave qui est arrivé aussi. Basile de Carvalho, je vous l'avais dit auparavant, mais était là aussi, nous avait rejoint aussi. Et on avait un groupe effectivement qui était suffisamment costaud, solide pour pouvoir effectivement prétendre à autre chose qu'un maintien arraché à la, on va dire, à l'avant-dernière journée face à Caen, à Le Blé. Donc après, il y a plein de choses qui sont entrées en compte. Voilà, tout simplement, on a eu le départ d'Albert Rust, Miguel D'Agostino a pris la suite. Ensuite, il y a eu Thierry Goudet qui est arrivé. Et c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là, mais je pense que c'était peut-être le processus, tout simplement, entre guillemets, j'irais le normal, qui a amené aujourd'hui à ce que Brest aujourd'hui soit en Ligue 1. Mais voilà, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir une deuxième saison beaucoup plus tranquille. Et bien sûr avec une autre issue, mais je veux dire, avoir obtenu le maintien sur l'avant-dernière journée a été aussi quelque chose aussi de fort. Des fois on dit c'est aussi fort qu'une montée. Mais c'est vrai que cette deuxième saison a été un petit peu délicate, ouais.
Ouais, et puis c'est vrai que bon, si on rappelle le contexte un petit peu aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent, on parle d'une saison compliquée parce que le maintien est arraché à la 37e journée et que vous finissez 17e, mais paradoxalement vous n'êtes pas relégable une seule fois de la saison, vous êtes même longtemps en milieu de tableau avant une dégringolade sur la deuxième partie de saison. On le disait, le coach Albert Rust qui perd sa place à ce moment-là. Il y a peut-être une cassure avec l'entraîneur à ce moment-là, ou qu'est-ce qui fait qu'il y avait, dans les résultats en tout cas, que ça avait dégringolé d'un coup?
Écoutez, même moi, quasiment presque 10-15 ans après, je sais toujours pas pourquoi exactement, pourquoi on avait perdu le fil conducteur alors que on aurait pu capitaliser sur ce qu'on savait faire de bien, c'est-à-dire d'être un bloc solide et puis de pouvoir porter les estocades quand il fallait. Après, est-ce que Brest a été à un moment donné, la première saison, un petit peu l'effet de surprise et puis tout le monde nous attendait un petit peu au tournant. Peut-être aussi, mais ouais, il y a eu cette cassure avec Albert. Pourquoi, comment sincèrement, je dis, il y a quasiment 20 ans après, en 20 ans, peut-être pas, mais ouais, ça fait quand même un petit moment. Quoi.
15 ans.
14, ouais, donc non, sincèrement, si j'avais la réponse, je vous l'aurais donné tout de suite à l'issue de la saison, quand on s'était maintenu de justesse. Je vous avoue, je sais pas pourquoi, et le club évoluait tranquillement, j'irais plutôt positivement, parce qu'en termes d'infrastructure, on a eu les vestiaires qu'actuellement ont les joueurs, par où on sort actuellement, le club évoluait, il y a eu les, voilà, et plein de choses. Après, sportivement, il y a des fois des choses qu'on peut pas expliquer. Je vous dis, est-ce que, à un moment donné, et pourtant, je sais qu'on avait un effectif de qualité, hein, avec les joueurs qu'on avait, on avait un effectif de qualité. La preuve, c'est que on réussit à se maintenir. On n'a pas été relégable, effectivement, de la saison, mais c'était une saison qui était compliquée, avec ce fil conducteur qu'on a perdu à un moment donné. Malgré de bons sursauts cette saison-là, parce que faut quand même savoir que cette saison-là, on bat Nice quand même en Coupe de France. Ouais. Le blé, j'irai haut la main. Et puis, il y a ce truc qui se perd. Est-ce que cette victoire-là, c'est plutôt plus de mal que de bien? Peut-être, j'y viens peut-être. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça reste quand même aussi un souvenir fort.
Une petite page de pub, Robert Malm, et on revient pour la deuxième partie de cette interview.
Avec
tout de
plaisir.
Suite.
Ma cliente, son pare-brise a fissuré. Chez Carglass, bien sûr, on lui remplace son pare-brise. Et pour la paperasse, c'est simple. On pré-remplit la déclaration bris de glace avec vous, vous n'avez plus qu'à signer. Pratique ? Et en ce moment, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, on vous offre un lave-vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Alors profitez-en, c'est prolongé jusqu'au 16 octobre. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Voir conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, carglass.fr.
Quand Paul a su qu'il y avait chez Orange un nouveau forfait mobile
5G, 120 gigas, sans engagement de durée,
il a d'abord
halluciné.
Et puis, il s'est engagé à aller
chez Orange sans tarder.
Avec Orange, le forfait mobile 120 gigas 5G pour clients pack open sans engagement est à 14,99€ par mois pendant 12 mois, puis 26,99€.
Orange.
Valable jusqu'au 17 novembre, réservé aux nouveaux clients. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible, débit max théorique, variable selon fréquence. Couverture détaillée et différenciée sur réseau.orange.fr.
Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi et en faire toujours plus pour la santé de vos salariés. Avec notre complémentaire santé entreprise qui inclut des ateliers de prévention sur mesure, des consultations médicales à distance 24h sur 24 et une assistance psychologique. Souscription en ligne ou avec un expert, vous décidez. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux.
Informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers entreprises.
Alors, cette rentrée ? Super ! Morale à 100% et convaincue à 100% par la Suzuki hybride de mon fiancé.
Ah oui ? Raconte !
Une rentrée 100% hybride chez Suzuki, à partir de 99€ par mois, entretien inclus.
Pour passer à l'hybride, passez chez Suzuki. Journée porte ouverte ce week-end. Initie hybride avantage, location longue durée, 37 mois, 30 000 km, à partir de 99€ par mois, après premier loyer de 1990€, prime à la conversion de 1500€ déduite. Entretien inclus, valable jusqu'au 15 novembre, si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Carrefour, parce que le shampoing Head & Shoulders 2 en 1 apaise les démangeaisons, élimine les pellicules et apporte à vos cheveux hydratation et fraîcheur. Ah oui, ça décoiffe. On est heureux d'entendre que la beauté est à l'honneur chez Carrefour, avec dès demain et jusqu'au 25 octobre, 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur le shampoing 2 en 1 Head & Shoulders, qui revient à 2,40€ seulement dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour.
Tripé en caisse 7,99€, 580 ml, différents parfums. Détails sur carrefour.fr.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.
T'étais encore chez Intersport ?
Bah oui, le mois Intersport, c'est pas fini.
Génial, parce que je comptais encore en profiter.
Ah, dépêche-toi, il y a toujours 1 million d'euros de cadeaux à gagner et des réductions exceptionnelles.
C'est parti.
C'est le mois Intersport. Pour l'occasion et jusqu'au 24 octobre chez Intersport, les doudounes The North Face, homme ou femme, Arashi Puffy, sont à 99,99€ au lieu de 199,99€, soit une économie de 100€.
Intersport.
Voir conditions, règlements complets et liste des magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponible.
Oh là là, il va vraiment falloir de l'aide là.
Hervé est plombier et veut développer son entreprise. Mais avec toutes ses fuites à réparer, il est sous l'eau. Indeed peut l'aider à embaucher plus facilement avec l'entretien vidéo.
J'ai besoin d'Indeed.
Avec Indeed, vous pouvez publier une offre, gérer les candidatures et même faire vos entretiens d'embauche depuis une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Le magazine des déchaînés du football en direct, 19h22, avec notre invité par téléphone ce soir, Robert Malm, ex-attaquant brestois.
Exactement, on rappelle l'époque, janvier 2005 jusqu'à juin 2006, 62 matchs, 23 buts avec le SB29. 23 buts, Robert, s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait lequel ?
Je dirais deux. Le premier... face à Guingamp. Sur ce match-là, je fais un doublé parce qu'on est quand même à 10. Hein. On fait 2-2. Et puis, je vais dire, malheureusement, le dernier, parce que... alors, malheureusement, le dernier, parce qu'il était censé que je reste plus longtemps à Brest, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, parce que c'était aussi le but synonyme de maintien, c'était face à Caen. Et les deux grognards un peu de cette équipe qui étaient Christophe Forest et moi avions marqué ce jour-là pour permettre à Brest de se maintenir.
C'était un joli clin d'œil. Vous disiez que vous deviez rester à Brest. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez parti alors à cette époque ?
Je vais vous expliquer l'histoire, je vais essayer de la faire court. À l'issue de la saison, quand on est maintenu, j'ai la permission du club de pouvoir rejoindre la sélection togolaise pour disputer le mondial 2006 en Allemagne. Donc je ne dispute pas le dernier match à Guignon. Avant de partir, je me mets d'accord avec le club pour prolonger deux saisons, tout simplement. Tout le monde se serre la main, on n'avait rien signé d'officiel, mais voilà, c'était parti comme ça. Et moi, dans mon idée, et malgré si la Coupe du Monde elle devait être bonne, c'était de rester à Brest, tout simplement. Michel Gestin est venu me voir en Allemagne, on a discuté, pendant la discussion, malheureusement, il m'annonce que le coach Thierry Goudet ne veut que je ne prolonge que d'une saison. Et là, on n'a pas été d'accord. J'ai dit non, je suis pas d'accord parce que on a décidé de 2 ans ensemble, on était tous d'accord. Et quelques semaines après, vous m'annoncez que c'était plus qu'une année, donc j'ai dit non, j'étais pas d'accord. Donc on a longtemps discuté. C'est même pas une question d'argent, c'est juste une question de durée, tout simplement. Et donc Philippe Boursa est entré mal parce que on s'était mis d'accord sur 2 ans. Et finalement, Louis Nicolin, qui voulait que je vienne, mais qui a fait des pieds et des mains pour que je vienne à Montpellier. Et pour la petite histoire, faut quand même savoir que lors de la saison 2005-2006, Valenciennes m'avait contacté à la trêve pour que j'aille rejoindre Valenciennes. Ah oui. Et j'ai eu Antoine Comboiré au téléphone, qui Valenciennes cette année-là, je vous l'ai monté. Je ne suis pas parti. Pour ceux qui pensaient que partir pour moi était simple, non, je ne suis pas parti. J'aurais pu partir et dire, vous voyez, moi je suis monté avec Valenciennes. Non, pas du tout. Et Loulou Nicolas me fait une proposition de 2 ans et je rappelle Michel Gestin pour lui dire, voilà, Montpellier me propose 2 ans. Si vous me proposez, si on reste sur Repart sur les ans, je reste à Brest. Et la réponse a été, j'ai qu'à prendre ce que Montpellier me propose.
Aïe. Ah oui. Donc du coup, le départ dans l'Hérault.
Je suis parti dans l'Hérault. Oui, je suis parti dans l'Hérault. Et puis voilà pourquoi mon départ. Voilà comment s'est passé mon départ de Brest.
D'accord. Alors depuis, c'est vrai que Brest a eu quelques années plus tard, est monté en Ligue 1 en 2010, oui. Est redescendu, remonté aussi en 2019. Et là, c'est vrai que après 2 bonnes saisons, même si la saison passée était plus délicate, ce début est un peu plus compliqué pour Brest qui n'a pas gagné, hein, 4 points en 9 rencontres. Comment vous la voyez cette saison, cette suite de saison pour le Stade brestois cette année en Ligue 1 ?
Je vais dire que il y a eu pas mal de nouvelles choses au sein du club. Olivier Daoglio est parti, Michel est arrivé, Michel Derzakarian est arrivé avec un nouveau staff, des nouvelles méthodes à mettre en place, des choses. Alors des fois ça prend du temps, c'est vrai. Mais quand on voit les joueurs de qualité qu'il y a dans cet effectif, Brest n'est pas à sa place. Il y a eu plusieurs épisodes de joueurs qui devaient partir, pas partir. Bon bref, tout ça, vous savez, on met ça à bout, ça peut effectivement perturber un début de saison. Maintenant, il y a eu une première trêve qui est arrivée, il y a eu effectivement des matchs où en plus le Paris Saint-Germain s'est présenté à ce moment-là. Voilà, il y a eu d'autres rencontres qui auraient pu basculer pour Brest. Mais là, cette fois-ci, je pense qu'il y a suffisamment de temps qui est passé. Maintenant, c'est au joueur de se retrousser les manches, tout simplement, parce que c'est vrai, c'est facile de dire oui, l'entraîneur, ceci, l'entraîneur. Ouais, mais l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? L'entraîneur essaie de faire la meilleure équipe possible pour que Brest soit le plus performant possible. Après, maintenant, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut aussi que les joueurs se regardent dans une glace, tout comme nous, on a fait à un moment donné quand Albert Rust, malheureusement, a été limogé. Et se dire, il faut qu'on se retrouve très manche, tout simplement, parce que sinon, vers la catastrophe, c'est une descente, et personne n'a envie que Brest descende en Ligue 2. Alors nous, on se plaint pas, on aura Brest la saison prochaine, mais au-delà de tout ça, non, Brest mérite d'être en Ligue 1, Brest est un club de Ligue 1, donc il reste encore du temps, c'est vrai, mais attention, souvent on se dit ça, et puis... plus les journées passent, plus les points s'éloignent, les points vous échappent, pardon, et les adversaires directs, des fois, creusent l'écart. Donc, rien n'est encore terminé, loin de là, très très loin de là, mais j'ai confiance en Michel et son staff, que je connais très bien, et Michel n'est pas du tout du genre à baisser les bras, loin de là. Il a des adjoints, que ce soit Franck Rizzetto ou David Bechkoura, qui composent aussi l'effectif pour pouvoir trouver ce qu'il faut. Pour pouvoir permettre au club de regagner, je dirais, un classement un peu plus digne de son 200.
Ouais, le plus risqué, peut-être, c'est le temps de prendre, d'avoir cette prise de conscience du côté des joueurs, peut-être, qui peut amener Brest dans une zone difficile.
Bon, maintenant, c'est bon, c'est ce que je disais. La prise de conscience, maintenant, il faut la prendre tout de suite. Il y a du temps qui s'est passé, ok, des nouvelles méthodes. On peut pas dire aujourd'hui qu'il y a de mauvaises conditions d'entraînement, bien au contraire, elles ont évolué, le club évolue aussi. Maintenant, je vous dis, c'est aux joueurs. Les joueurs ont la réponse.
Ouais, ce sera eux de...
Michel Desarcarian va leur proposer toutes les solutions possibles et inimaginables. Maintenant, ce sont aux joueurs, je suis désolé d'insister là-dessus, mais je pense que ce sont vraiment aux joueurs aujourd'hui de donner la réponse.
Et notamment contre Reims, donc dimanche prochain.
Ce sera important. Hein.
Ce sera un match important, exactement, dans cette 10e journée de Ligue 1. Merci beaucoup, Robert Malm, d'avoir été avec nous
avec
ce soir sur Radio Bonheur.
Plaisir.
Merci encore.
Un grand plaisir.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée aux Brestois et aux Brestoises.
Merci, bonne soirée. Merci.
Bonne soirée.
Radio Bonheur, 19h30. On tourne la page brestoise en rappelant donc le match hyper important de ce week-end pour le maintien
dimanche.
Déjà pour les Brestois qui recevront Reims à Francis Leblé.
Exactement.
Il va falloir prendre 3 points pour cette 10e rencontre du championnat de Ligue 1. Une première victoire, c'est déjà impératif pour les Brestois.
Oui.
Et on sait que c'est difficile. On a vu que Brest avait gagné difficilement ce week-end en match amical contre Concarneau 4-3. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même ce problème défensif. Du côté de Brest, ça reste perméable.
Ah oui, ça reste perméable. Hein, Brest qui alors a marqué à tous ses matchs de championnat cette année,
mais
a concédé aussi au moins un but à tous ses matchs. Et donc qui va devoir à un moment donné aussi trouver cette recette pour la victoire, parce que effectivement pour l'instant il n'y en a toujours pas du côté de Brest après 9 rencontres de championnat. On bascule donc maintenant sur le FC Lorient, parce qu'on va avoir avec nous dans un instant Yann Jouffre, qu'on avait déjà eu l'année dernière en tant qu'ex-Guingampais, mais cette fois on va l'avoir en tant qu'ex-Lorientais pour cette partie souvenir consacrée au FCL avec Yann Jouffre, l'ancien milieu de terrain de Lorient, qui a passé 8 ans et demi du côté du Morbihan, de janvier 2008 à juin 2016. Au total, c'est 215 matchs pour 18 buts hein, dans le Morbihan pour Yann Jouffre. Donc c'est, voilà, c'est alors, je sais pas si on peut dire un monument, mais c'est un joueur qui a marqué, ça c'est certain, l'histoire du FCL, de son empreinte avec ses 215 matchs, donc en 8 ans et demi du côté de Lorient. C'était essentiellement sous l'ère Christian Gourcuff, puis sous Sylvain Ripoll lors des deux dernières saisons, avant un départ à l'époque du côté de Metz. Yann Jouffre, il est avec nous et on l'accueille maintenant. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Alors on vous avait eu l'année dernière pour parler de votre passage à Guingamp. On va cette fois revenir sur vos années lorientaises et donc cette période de janvier 2008 à juin 2016. C'est à Lorient justement que vous avez découvert la Ligue 1. Vous étiez arrivé en cours de saison de Ligue 2 puisque vous étiez à Guingamp juste avant. Comment s'était passée à l'époque la transition entre ce départ et cette découverte de la Ligue 1?
Bah, j'avais découvert la Ligue 1 avant, parce qu'à Guingamp, la première année où je suis venu en 2003, on était en Ligue 1.
Oui, c'est
après Drogba. J'avais fait que quelques apparitions. Mais oui, c'est vraiment à Lorient que je suis installé en Ligue 1. C'était un apprentissage un petit peu tout en douceur. Il y avait une belle équipe, une équipe qui tournait bien. Donc j'ai fait mes débuts petit à petit. Avec un super coach, il y avait des joueurs de qualité. Donc c'était assez facile, on va dire, de s'intégrer dans cet effectif-là.
Alors justement, dans s'adapter au jeu de Christian Gourcuff, est-ce que ça a peut-être demandé une rigueur différente, une façon de procéder différente?
En fait, il recrutait que des joueurs qui aimaient le profil et qui collaient avec sa philosophie de jeu. Donc c'était assez facile pour les joueurs qui étaient recrutés de s'adapter. Mais après, tactiquement, oui, il y avait une rigueur. La rigueur Gourcuff, tactiquement, elle a des exigences, donc ça c'est ça, oui. Mais après, dans la philosophie de jeu, etc., on avait tous à peu près le même profil et c'était assez facile de s'adapter à ce qu'il vous demandait.
Alors vous êtes devenu, Yann, un leader de ce milieu de terrain, petit à petit, des merlus. Alors ça a mis un peu de temps parce qu'il y a eu des blessures sur les premières saisons, 2009-2010, 2010-2011, vous jouez peu à cause de ces blessures. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Vous aviez traîné quelque chose sur le long terme?
Ouais, j'ai fait une grosse pubalgie. Il y a beaucoup de joueurs qui savent de quoi je parle. Difficile de s'en sortir parce qu'un coup c'est l'adducteur, un coup c'est l'hernie inguinale là, un peu en bas du ventre. Au début on traîne, on évite l'opération, après on se fait opérer, puis on se fait opérer. Au début je me suis opéré que l'hernie inguinale, puis après j'avais mal à l'adducteur. Donc c'était vraiment une galère pendant 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans j'ai vraiment cru que je savais pas si j'allais rejouer un jour. Mais ça s'est bien terminé, comme quoi il faut être patient et puis il faut prendre son mal en patience et être courageux. Mais c'est vrai que c'était un moment compliqué. Ouais.
2009-2010, c'est là que Lorient obtient le meilleur classement de son histoire en Ligue 1, une 7e place. Comment vous l'avez vécu, avec la frustration de ne quasiment pas jouer ou avec la joie pour les copains?
Non, on est toujours content pour les copains. Après, c'est quand même aussi un sport individuel, dans le sens où on fait tous notre bonhomme de chemin et forcément on a un côté assez pas égocentrique, mais forcément on se replie aussi sur soi-même, surtout dans les moments compliqués. Mais j'en garde un beau souvenir parce que si je dis pas de bêtises, ça commence à être vieux tout ça, mais si je dis pas de bêtises, c'est moi qui marque contre Lille le dernier match c'est grâce à ce but-là qu'on fait ce classement-là et qu'on prive les Lillois de Ligue des Champions. Si c'est la bonne année, je crois que
exactement.
Ça se passe comme ça, je crois.
Oui, avec la victoire 2-1 contre Lille lors de la 38e journée.
Et je marque le deuxième but. Ouais.
Et justement, après tout cela, on a l'impression que vous êtes revenu beaucoup plus fort, parce que c'est là vraiment que vous avez éclaté après du côté de Lorient.
Après, je pense que j'aurais eu un début de carrière à Lorient différent si j'avais pas été blessé, mais bon, avec ces blessures, il y a eu un temps d'adaptation. Mais ouais, après les blessures ont commencé à me laisser tranquille petit à petit, puis je me suis installé tout doucement dans cet effectif-là, et puis bon, après j'ai pris du poids, sans exagération non plus, mais du poids dans le vestiaire, dans le sens où j'ai vite fait partie des anciens quand même, parce que je suis resté 8 ans et demi, donc c'était... C'était agréable. Le moment où j'étais bien installé dans l'équipe et puis je me suis senti mature dans le jeu et on avait J'ai fait une ou deux saisons où je me suis vraiment senti en pleine possession des moyens, et c'est des sentiments où quand vraiment on se sent fort et on se sent au summum de ses capacités, c'est vrai que j'ai passé une ou deux saisons très agréables.
Justement, dans cette période-là, au début des années 2010, vous faisiez partie des joueurs qui portaient cette équipe de Lorient. Vous étiez dans les parfois meilleurs passeurs de Ligue 1, ou en tout cas pas loin, très décisif. Est-ce que vous avez même cru à un moment donné à l'équipe de France ou à s'en rapprocher parfois ?
Non. Je pense que j'aurais pu viser plus haut. Je l'avais déjà dit dans un club un peu plus huppé. J'avais eu des contacts, mais j'étais trop loin. J'ai côtoyé des joueurs équipe de France et j'avais pas le niveau pour. J'avais pas le niveau physique, athlétique pour intégrer. J'avais pas le niveau clairement de la Ligue des Champions et le niveau international. Je l'ai vite compris. Après. Pour jouer dans un club intermédiaire, j'ai joué avec des joueurs comme Coat, qui était un joueur très cadre à Saint-Etienne. On s'est retrouvé à Metz, on a été formés ensemble à Nîmes et à Metz. Je pense que j'ai des qualités similaires. Mais après, le niveau Ligue des Champions et international, c'est vraiment un autre niveau, c'est un autre monde et c'était pas accessible pour moi.
Quel type de joueur, justement, vous a fait prendre conscience que cette marche était trop haute ?
J'ai joué avec Amalfitano, par exemple, qui a eu une toute petite carrière internationale et qui a joué à Marseille, qui a joué en Angleterre. Il avait un niveau athlétique, c'est vrai, supérieur. Et puis après, j'ai joué en début de carrière avec Jérôme Leroy à Guingamp, où c'est la grande classe. Et Marama Veillora qui a fait une belle carrière, où on sentait qu'il y avait quand même des qualités techniques hors du commun. Et enfin, je sais pas après quel joueur, mais même les joueurs que je rencontrais, les adversaires, on sent vite que les internationaux, les 3-4 grosses équipes qui jouent la Ligue des Champions, les grosses coupes d'Europe, il y a quand même un niveau d'écart.
Alors à Lorient, vous êtes aussi devenu un spécialiste des coups francs, notamment vous en avez marqué quand même quelques-uns en Ligue 1 avec les Merlus. Est-ce que Christian Gourcuff, sur cet aspect-là aussi, vous a permis de grandir ?
Ben, pour être honnête, c'est un entraîneur fantastique et il a fait progresser tous ses joueurs, mais on travaillait pas énormément les coups francs. C'est après, petit à petit, j'ai pris conscience qu'après l'entraînement, il fallait même, quitte à rester tout seul avec un mur ou à demander à être demandeur, en fait, de tirer pendant une demi-heure des coups de pied arrêtés. Mais on faisait pas énormément de spécifiques coups de pied arrêtés le vendredi un peu, mais pas énormément. Et c'est après que j'ai pris conscience de ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un geste, on s'aperçoit vite que c'est un geste très répétitif. Et si on s'entraîne une demi-heure tous les jours, ça devient de plus en plus facile. C'est vraiment, je conseille vraiment à tous ces jeunes et tous ces jeunes joueurs qui veulent être décisifs sur ce côté-là. Il n'y a pas que le talent du pied, il y a aussi un gros entraînement derrière. Ouais.
Une petite page de pub, Yann Jouffre, et puis on revient tout de suite pour la suite de cette interview. À tout de suite.
Radio Bonheur, Centre-Bretagne.
Radio Bonheur avec le retour du magazine des déchaînés du football. On est en direct jusqu'à 20h30. Retour sur Lorient et notre invité de ce soir, Yann Jouffre.
Oui, l'ancien Merlu qui était donc du côté du FCL, on le rappelle, de janvier 2008 à juin 2016. Yann, on parlait de vos coups francs notamment juste avant la pause. Les coups francs, mais il y a eu des buts aussi de manière différente dans le jeu notamment. S'il fallait en retenir un de votre passage à Lorient, ce serait lequel ?
Ouais, j'en ai mis quelques-uns de jolis. J'en ai mis un du droit contre Ajaccio, je me rappelle, assez loin. Sur le droit, donc c'est quand même du mauvais pied. Ouais. Une belle lucarne, mais je ne le retrouve pas. Je voulais le montrer à mon fils celui-là, mais je ne le retrouve pas sur internet. Donc voilà, mais ouais, j'en ai mis quelques-uns de. J'ai mis quelques jolis buts. Après, j'étais pas après non plus un grand buteur. J'étais plus un passeur qu'un buteur.
Ouais, on le rappelle, 18 buts hein, en 215 matchs avec Lorient et de nombreuses passes décisives évidemment également. Alors, sur ce passage-là, il y a deux demi-finales de coupe. Une en Coupe de la Ligue contre Lyon en 2012, l'autre en Coupe de France à Évian l'année suivante. Les deux perdues malheureusement, alors que celle contre Lyon en plus était très bien engagée. Est-ce qu'il y a un petit sentiment d'inaboutissement sur ces deux parcours en coupe avec Lorient?
Ah oui, moi mon regret c'est que j'ai joué 16 ans en pro, j'ai fait quand même pas mal de matchs même avec mes blessures et je suis jamais allé au Stade de France et j'ai jamais rien gagné, donc c'est vrai que c'est un peu une frustration, surtout qu'on était quand même pas loin à chaque fois. Moi j'ai joué une demi avec Nîmes aussi à 17 ans contre Lorient justement, c'est l'année où à De Pouliquen il gagne la coupe de il perd la coupe de France, il gagne la coupe de la Ligue, sinon ou c'est
l'inverse, je sais plus. Il gagne la coupe de la Ligue, il gagne la coupe de France et perd la coupe de la Ligue.
Et donc moi je perds avec Nîmes au Moustoir en demi, mais donc je perds celle-ci de demi, j'en perds 2-3 avec Lorient, donc non c'est vrai que ça reste un mauvais souvenir à Evian, surtout là Evian je suis titulaire. J'ai une grosse action en début de match, je la manque, après je manque mon match un petit peu, donc ouais c'est dommage de pas être allé d'aller fouler le Stade de France et puis d'essayer d'en remporter une.
Avec presque 10 ans de recul maintenant, qu'est-ce qui n'avait pas marché sur ces deux-là? Parce qu'en plus celle de Lyon vous la teniez à quelques secondes près cette qualif.
Moi là, maintenant j'ose le dire, mais moi en plus on gagne 2-0, je rentre. Et on perd 4-2 si je dis pas de bêtises. Oui. Donc moi concrètement à la fin du match je disais bon ben moi j'ai perdu 4-0. Donc ouais j'étais dégoûté. En plus je fais plutôt une bonne rentrée. On était bien, on était bien dans le match, on pouvait même tuer le match et on se fait remonter puis on explose à la fin. Mais c'est vraiment dommage. Ouais.
Il y avait eu cette élimination en prolongation à l'arrivée puisque Lyon avait égalisé juste à l'entame du temps additionnel.
Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est pour ça qu'on explose à la fin, c'est qu'en fait on joue les prolongues.
Ouais, tout à fait. Briand qui avait égalisé pour Lyon, puis derrière deux autres buts en prolongation. Alors, depuis, effectivement, Lorient a beaucoup évolué parce qu'il y a eu cette descente évidemment en Ligue 2 un an après votre départ. Il y a eu la remontée il y a deux ans maintenant. Quel regard vous portez sur l'évolution de Lorient et notamment sur ce début de saison désormais en Ligue 1?
Eh ben, j'ai plusieurs sentiments. Le premier, c'est que je suis très content, très heureux pour ce club parce que c'est mon club, ça le restera à jamais. Je pense qu'il y a pas de secret dans le foot. Ils ont recruté un entraîneur de qualité. Il l'a prouvé partout où il est passé. Donc c'est pas une surprise de les voir là aujourd'hui. Après, j'ai un sentiment aussi, nous les anciens, quand on s'appelle, ce jeu à la lorientaise, je pense qu'il existe plus. Enfin, il existe plus sans vouloir dévaloriser ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, c'est même pas une critique contre le coach ou les joueurs. C'est la philosophie qui existe plus en fait. Et c'est vrai que le Gourcuff avait mis tellement de temps à mettre ça en place. Et c'était quand ça se déroulait bien, c'était un tel plaisir de voir l'équipe ou de jouer dans cette équipe. Donc c'est un peu, des fois on est un peu nostalgique de tout ça, mais en tous les cas très heureux de voir le club en Ligue 1. C'est un vrai club de Ligue 1 pour moi, avec les nouvelles installations, avec le stade. Donc non, c'est, je je suis très heureux, mais je pense pas être le seul. Si vous interrogez quelques supporters qui ont vu pas mal de choses à Lorient, je pense qu'il y a peut-être une nostalgie de ces moments-là pour beaucoup.
Ouais, justement, comment vous l'auriez défini en quelques mots ce jeu à la lorientaise?
Bah, c'est un jeu de passe. Après, on n'a rien inventé. Hein. Il a beaucoup, je pense, regardé, appris sur le jeu à la nantaise, le Barça. Après, avec toute proportion gardée, hein. On était bien loin de ce niveau-là. Mais c'était un jeu de possession, quoi. C'est un jeu de possession, comme j'aimerais voir Paris de posséder. Avoir cette possession là en Ligue 1, je trouve que c'est quand même terrible de voir une équipe de cette qualité avec qui maîtrise pas son sujet. Et nous, ce qu'on essayait, c'est d'avoir un jeu de possession, un jeu basé de relance derrière, un jeu fluide avec des remises en une touche, des joueurs qui sentent le ballon, des belles déviations, le jeu comme moi je l'aime. Après, on a tous une sensibilité différente, hein. Il y a des joueurs très puissants, il y a Mofi ouais. En ce moment, il vous dirait, mais moi j'en ai rien à secouer, que vous fassiez des passes, donnez-moi des ballons dans l'espace et je veux marquer des buts. On a tous une sensibilité différente par rapport à nos qualités, quoi.
Et ce jeu, effectivement, qui a longtemps régalé le moustoir sous l'air Christian Gourcuff. Vous, maintenant, Yann, vous êtes toujours entraîneur de Valden à côté de Grenoble?
Non, moi je suis à côté de Montélimar, donc je coach les. Là, cette année, j'ai coaché mon grand qui, quand j'ai arrêté, qui était en U11, et maintenant il est en U15, donc là, je le suis plus, mais j'entraîne maintenant mon tout dernier qui a 3 ans en baby foot, en initiation foot. Je me régale parce que je pense qu'il y a une petite pépite qui arrive là, et donc je me régale, mais non, je suis plus dans le foot, je joue en vétéran, j'adore ça, mais en fait, j'ai la passion du terrain et du jeu. Moi, je kiffe quand j'ai le ballon dans les pieds ou quand je joue avec mes copains, mais entraîner, constituer une séance, faire progresser, je me suis vite aperçu que c'était pas pour moi. Donc, je suis dans un tout autre domaine. Maintenant, je suis dans l'immobilier. Je fais des maisons, je les revends. Donc,
d'accord.
Et c'est autre chose.
Bon, et ben on attend de voir la relève Jouffre sur les terrains de Ligue 1 dans quelques années.
Peut-être, ouais.
Bon, ben merci beaucoup en tout cas Yann Jouffre d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci, bonsoir.
Merci, bonne soirée. Radio Bonheur, il est 19h49, presque 19h50, une petite pause publicitaire.
Oui.
Et puis on va parler de Concarneau et de Saint-Brieuc.
Et de Stade Briochin, on aura avec nous Hugo Boudin, le défenseur des Griffons.
Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En vous promenant, par exemple.
C'est un super prix.
Ou même en gravissant une colline.
C'est un super prix.
Qui est en fait une montagne.
C'est un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Alors ma chérie, tu lézardes sous ta pergola Abri Sud?
Tout à fait mon cœur. C'est le paradis. Tu peux baisser les stores.
C'est comme si c'était fait.
Un peu moins, un peu plus.
Oui, voilà.
Oh, voilà, c'est parfait. Ah. T'irais pas me chercher un jus de fruits?
Ah, il y a beaucoup d'options chez Abri Sud, hein, mais l'option jus de fruits, je ne crois pas.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Sérieux? Poignard se fête ses 50 ans toute l'année? Ça alors.
Eh oui, en plus de tous les cadeaux à gagner, jusqu'au 20 novembre, Point S vous offre jusqu'à 130 euros pour l'achat de pneus Goodyear.
Eh ben voilà, pas de stress, il y a Point S.
Voir conditions sur points.fr.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
Être utile, c'est faire des choix. C'est choisir d'être maître nageur, agent des espaces verts, secrétaire de mairie ou pompier. Être utile est souvent un choix pas si facile. Parce qu'être utile, c'est choisir les autres. Alors pour nous protéger, mes collègues agents territoriaux et moi, j'ai choisi d'adhérer à la MNT. Première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux. Mutuelle nationale territoriale, être utile est un beau métier. Et en ce moment, 2 mois de cotisation offerts sur MNT Santé. Voir conditions sur santé.mnt.fr. La MNT est une mutuelle du groupe Vive.
Allez, le magazine des déchaînés du football en direct ce soir sur Radio Bonheur comme tous les lundis soirs. Il est 19h52. On parle du championnat de national de la 3e division maintenant avec Concarneau et Saint-Brieuc qui ont joué ce week-end.
Ouais, victoire pour Concarneau à Châteauroux 2-0 vendredi soir, un doublé de Fed El Koumisti. D'ailleurs Châteauroux qui vient de se séparer aujourd'hui de son entraîneur Marco Simonet. Les Castelroussins et leurs objectifs de montée qui sont pour l'instant un petit peu en retard.
Et ça va bien pour Concarneau du coup.
Sur ce qui s'est passé, et oui, ça va très bien pour Concarneau puisque les Concarnois comptent 18 points et sont vraiment au pied du podium de ce championnat de national, actuellement 4e, à une longueur de la 3e place. Et un tout petit peu plus bas, on retrouve le Stade Briochin qui, à domicile, a tenu tête à une équipe du haut de tableau, Villefranche, 3e, et un match 0-0, match nul 0-0 vendredi soir à Fred Aubert. Pour revenir sur cette partie, nous avons avec nous le défenseur central, Hugo Boudin. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Alors quel est votre ressenti Hugo après ce match contre Villefranche? Est-ce que Saint-Brieuc méritait mieux sur cette partie?
Ouais, c'est un sentiment un petit peu mitigé par rapport au match de vendredi. On a eu des situations pour pouvoir marquer, mais on a aussi eu très chaud sur deux situations en fin de match où Villefranche a touché deux fois la barre transversale. Donc voilà, je pense que le point du nul est équitable par rapport au match.
Alors ce qui a surpris un petit peu au coup d'envoi, c'est de vous voir démarrer pour la première fois avec 5 défenseurs, donc 3 défenseurs centraux, dont vous derrière. Comment vous vous êtes senti dans ce nouveau système?
Bah, c'est un système qu'on a déjà testé cet été durant la préparation. Après, en match officiel, on ne l'avait jamais utilisé, mais je pense que c'est un système qui peut s'utiliser de par les profils de joueurs qui sont présents. Donc voilà, on s'est plutôt bien senti sur la première période. On a pu ressortir des ballons plus facilement aussi du fait d'être à 3 derrière.
Parce qu'on le sait, le problème de Saint-Brieuc en ce début de saison, c'est de marquer peu, 5 buts en 10 matchs. Cette assise défensive semblait justement apporter peut-être un peu plus de présence aussi dans la surface de réparation adverse sur la première période.
Oui, on a vu que les deux pistons qui sont les latéraux habituels, Morgan Jean-Pierre et James Lemarère, ont joué beaucoup plus haut. Donc il y a eu quand même plus de centres qu'à l'habitude. Donc c'est que le système le permettait vendredi.
Alors malgré le peu de buts marqués, Saint-Brieuc parvient à gratter des points ici et là. Est-ce que c'est plutôt encourageant quand on connaît ce genre de difficultés sur ce début de saison, de pas perdre non plus énormément de matchs?
Oui, bien sûr, parce qu'on voit qu'on n'a pas, on n'arrive pas à marquer beaucoup sur le début de saison. Après, je pense que c'est un déclic qu'il faut avoir pour pouvoir enchaîner, puisqu'on voit que défensivement, on n'encaisse pas beaucoup de buts aujourd'hui. Donc voilà, quand on sera efficace dans les deux zones de vérité, ce sera intéressant, je pense, pour la suite du championnat.
Et qu'est-ce qu'il faut justement pour que ça bascule de votre côté? Parce qu'on a l'impression que bon, y a eu pas mal de profils testés avec notamment Papin, Dutournier, Rivolier, plusieurs devant. Qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment ça bascule de votre côté à ce niveau-là, offensivement aussi?
Franchement, je pense qu'un brin de réussite nous aiderait grandement à avoir ce déclic, parce qu'on voit qu'il y a quand même des situations. Après, on n'a pas ce brin de chance, un ballon contré ou je sais pas, une frappe détournée, voilà, c'est des choses que nous on a pris comme but, mais pour l'instant en notre faveur ça n'a jamais été le cas. Donc voilà, après c'est de prendre, je pense, plus de risques et d'être plus dans l'instinct peut-être aussi devant le but quand on est dans la surface.
Alors le week-end prochain c'est une autre compétition qui vous attend, puisque vous allez retrouver la Coupe de France, le 5e tour, l'entrée en lice pour le stade Briochin. Il y a un déplacement à Redon, équipe de Régional 1. C'est l'occasion d'engranger un peu de confiance aussi avec ces matchs-là pour s'aérer un peu l'esprit du championnat.
Oui, après parler de confiance, il y en a aujourd'hui dans l'équipe. De là à dire que c'est fait pour engranger au niveau de la Coupe de France, je ne sais pas, parce qu'on sait qu'on va être attendu partout en étant le gros qui se déplace. Donc voilà, il faudra faire un match sérieux et si on est appliqué, passer pour le prochain tour.
Est-ce que dans un début de saison comme celui-là, Hugo, où bon, les résultats sont corrects, vous avez, enfin corrects, c'est pas le haut tableau, mais vous n'êtes pas non plus décroché, puisque vous avez 10 points en 10 matchs, vous êtes sorti même de la zone de relégation ce week-end. Est-ce que la Coupe de France, comme ça permet parfois de trouver un nouvel élan, à vous qui avez un petit peu de recul maintenant dans votre carrière?
Oui, on le voit à chaque fois que Saint-Brieuc a fait un parcours en Coupe de France, il y a l'enchaînement des matchs qui fait que qu'on ne coupe jamais et voilà, on est peut-être plus en jambes ou ça permet aussi de maintenir tout le monde sur le qui-vive puisque tout le monde a envie de jouer cette compétition aussi qui apporte énormément au club et aux joueurs.
Oui, vous avez notamment connu, vous Hugo, si je ne me trompe pas, le match contre Lens il y a quelques années, 16e de finale, c'est ça ?
C'est ça, oui, le match contre Lens où on perd 1-0 sur un pénalty encaissé. J'ai également connu le match contre Brest, surtout, où on avait eu la victoire 2-0 contre les Brestois à domicile. Donc voilà, c'est une coupe de tous les possibles, comme on dit, et ça apporte des sensations qui sont vraiment différentes du championnat. Et comme je l'ai dit, ça permet de rester en éveil et d'avoir une continuité par rapport au championnat.
Et quand on vient justement du monde amateur, comme ça, on a cet attachement peut-être encore plus fort à cette Coupe de France ?
Oui, bien sûr. On continue à regarder le tirage avec attention pour savoir quel club on va rencontrer. On souhaite toujours faire des parcours. Et on le voit que les clubs dont national en ont l'habitude, à l'image du Poiré et des Herbiers il y a quelques années. Donc voilà, c'est une coupe qui est intéressante pour les clubs et pour les joueurs également, pour se montrer.
Et on le rappelle, donc déplacement à Redon, samedi, si je ne me trompe pas, pour le Stade Briochin, samedi 19h, lors de ce cinquième tour de la Coupe de France. Merci beaucoup, Hugo Boudin, d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci,
allez,
bonsoir.
Allez les Briochins, merci. Bonne soirée. Il y aura les places d'ailleurs, alors pas pour la Coupe de France, mais pour le prochain match à domicile à gagner au Stade Fred Aubert à Saint-Brieuc en écoutant Radio Bonheur. Alors ce ne sera pas la semaine prochaine, ni la ce sera la semaine suivante.
Oui voilà, pas la semaine pas prochaine. Pas le prochain week-end, mais celui d'après.
Voilà, il y aura des places à gagner en écoutant Radio Bonheur pour assister gratuitement à cette prochaine rencontre à domicile du Stade Briochin. Il est presque 20h.
Oui, un petit point rapide sur les résultats.
On passe au classement peut-être de ce championnat national.
Oui, avec, on l'a dit, victoire donc de Concarneau à Châteauroux. Concarneau qui est donc 4e avec 18 points à 5 points du leader Annecy qui en compte donc 23. Juste derrière Bourg-en-Bresse, 21 mai. Bourg-en-Bresse joue ce soir contre Sedan et pourrait donc reprendre les rênes de ce championnat. Et derrière Concarneau, on retrouve donc Laval, 17 points. Sedan, 16 points. À voir ce que feront évidemment les Sedanais ce soir. Le Stade Briochin 13e avec 10 points, qui n'est donc qu'à 3 points de vraiment du milieu de tableau et de la 10e place. Et puis dans la zone rouge, Orléans 9 points, 7 et Créteil avec 7 points. Créteil qui a gagné son premier match de la saison. Et puis dernier avec toujours 0 victoire en 10 matchs, Bastia Borgo, les Corses de Bastia Borgo battus par Annecy ce week-end. En National 2, on a eu aussi la belle victoire de l'équipe réserve de Lorient qui poursuit sa chevauchée, leader de National 2, victoire à Poissy 2-1. Match nul pour l'équipe réserve de Guingamp, accroché à domicile un but partout contre la réserve de Caen. Et puis en National 3, c'est la GSI Pontivy, toujours invaincue, qui là aussi performe bien, juste derrière le Stade Brestois B, puisque c'est Brest B qui est leader, avec un but d'ailleurs du professionnel Youssouf Badji ce week-end pour les Brestois. Et à souligner aussi la première victoire de la saison du Stade Pontivien. Les informations et on revient avec l'En Avant Guingamp. 100% chanson française. Radio Bonheur.
Radio Bonheur.
Radio Bonheur au carillon et sur les montres qui marchent. Il est 20h, 20h et quelques bretelles. On se retrouve dans un instant après les infos pour la suite, évidemment, du magazine des déchaînés du football jusqu'à 20h30.
Bonsoir à tous. Le nombre de malades atteints par le Covid-19 est stable dans les hôpitaux en France. Les élèves du CP au CM2 ont tombé le masque ce lundi dans 21 départements. Selon les chiffres de Santé publique France, 6729 personnes étaient encore hospitalisées ce lundi en raison d'une infection au Covid-19. Parmi ces patients, 1145 étaient pris en charge dans des services de soins critiques qui accueillent les cas les plus graves. À noter que ces dernières 24 heures, 30 personnes sont décédées pour cause de Covid-19 en France. Honni par les uns, encensé par les autres, le nucléaire est déjà un enjeu crucial dans la course à l'élection présidentielle de 2022. À droite et au centre, on est plutôt ou franchement pour. À gauche et chez les Verts, on est plutôt ou franchement contre. Mais qu'en pensent les Français, alors même que la conscience de l'urgence climatique ne fait qu'augmenter dans l'opinion? Ces derniers se positionnent majoritairement en faveur de la production d'énergie par des centrales nucléaires. Ainsi, près de 6 Français sur 10, 59% y sont favorables, selon un sondage Odoxa réalisé en mars 2021. Un taux certes plus bas que celui de 2013 à 67%, mais beaucoup plus haut qu'en 2018 où 47% des Français étaient en faveur du nucléaire. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux ce week-end. Ce samedi, un internaute a diffusé un extrait montrant un adolescent se faire lyncher par une dizaine d'autres à Montgeron en Essonne. Dans un déchaînement de violence, plusieurs jeunes vêtus de noir, pour certains encapuchonnés, assénaient des coups de poing et de pied à un jeune homme au pied d'un immeuble du quartier sensible de la Forêt. Un second extrait de vidéo montrait la victime à terre dans un parc à nouveau en train de se faire frapper par plusieurs personnes. Des internautes ont signalé les faits à la plateforme policière en ligne Pharos ce dimanche, ce qui a déclenché l'ouverture d'une enquête par le commissariat de Montgeron, selon une source policière. Alors que le président de la République Emmanuel Macron doit effectuer un nouveau déplacement de 2 jours à Marseille, vendredi et samedi, le maire de la ville, Benoît Payan, a confirmé ce lundi le chiffre de 1,2 milliard d'euros pour le plan de rénovation des 470 écoles publiques, plan qui doit recevoir une part de financement de l'État.
Vos activités sur Radio Bonheur.
L'association VASI vous propose une conférence gratuite sur le thème de la mémoire. Vendredi, le 15 octobre à 14h30 à la salle socioculturelle de Plougeant à Morlaix. Vous pouvez vous renseigner en appelant le 06 15 97 46 66. Dans le Finistère, pour diffuser vos activités, vos annonces associatives, contactez Radio Bonheur au 02 96 63 00 63 tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 18h. 02 96 63 00 63.
Radio Bonheur.
La fête entre nous, c'est un CD pour faire la fête avec Michel Pruvot.
Dans un amphithéâtre, joyeux anniversaire.
C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro.
J'aime les moules, j'aime les frites.
Nous on sait faire la fête, nous on sait faire la fiesta. Nous les seigneurs, on est les plus grands.
Oh Cathy, Cathy.
Pour seulement 15 euros, le CD de Michel Pruvot est disponible à la boutique Radio Bonheur ou en commandant par téléphone au 02 96 63 00 63.
Radio Bonheur, 100% chanson française.
Radio Bonheur 20h05, le magazine des déchaînés du football en direct pour la dernière demi-heure jusqu'à 20h30. Et maintenant, on parle de l'en avant Guingamp.
Et oui, et
qui n'a pas joué ce week-end.
Non, qui n'a pas joué. Non, parce que c'était là aussi la trêve internationale, évidemment, pour la Ligue 2. Et donc, l'en avant Guingamp. Guingamp qui retrouvera le championnat samedi sur la pelouse de Nancy, l'actuelle lanterne rouge de Ligue 2. Et donc, pendant cette trêve internationale, eh bien, Pierre, qui est absent ce soir, vous a fait un petit peu mijoter parce qu'il a préparé un podcast, un Guingamp classique, comme vous les connaissez maintenant, et que vous pouvez retrouver sur le www.radiobonheur.com. Celui-là, il sera publié mercredi, mais il a préparé quelques extraits qu'il va diffuser ce soir, qu'on va diffuser ce soir, et notamment pour vous faire connaître ce joueur, donc là, et ainsi révéler l'identité de ce joueur retenu pour ce podcast. Voici les 4 premières minutes du podcast où vous allez donc découvrir notre invité Guingamp classique. Écoutez,
il faut essayer de deviner. Donc,
et il faut deviner. Vous allez, même entendre.
Quel sera l'invité de ce soir pour ce Guingamp classique?
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Gwen Gamb Classique, l'émission où nous prenons le temps de revenir sur un match, un joueur, une épopée, une époque marquante de l'histoire d'en avant. Tous nos précédents épisodes sont disponibles sur le radiobonheur.com, rubrique podcast, puis Gwen Gamb Classique. Vous pouvez les télécharger sur ordinateur ou téléphone et les écouter quand et où vous le souhaitez. Aujourd'hui, replongeons-nous dans la carrière d'un joueur en rouge et noir.
Donne-lui Ludo, donne-lui Ludovic Blas peut-être pour Marcus Thuram, le 1 contre 1 pour Thuram. 1 contre 1 joué avec Kerrer, et là ils sont 3 derrière lui Thuram. Thuram devant la surface, Thuram, oh, il est passé, Marcus Thuram, c'est pas vrai. Il manque la conclusion, il avait presque fait le plus dur. Il va au bout de son action Marcus, allez il y a Coco sur le côté gauche, Marcus Thuram qui va au bout, oh, un pénalty encore. Il est monstrueux quand il est comme ça, le pépère Marcus.
Bon, de toute façon, ça s'est vu, il y a eu un Guingamp sans Marcus Thuram, mais un Guingamp avec.
C'est le moment, c'est le moment. Pour revenir, Benesse, c'est bien parti, voilà. La tête de Thuram, c'était le moment. Thuram, Thuram, magnifique, magnifique encore. Thuram jusqu'au bout, le but de Marcus Thuram. Jusqu'au bout, tu es un bonhomme, Marcus Thuram, le grand bonhomme de Guingamp cette saison.
Indiscutable. Son geste est inacceptable, voilà, il faut qu'il apprenne.
Balle de match pour Marcus Thuram. Écoutez le roudourou. Les pas d'élan de Thuram, c'est arrêté. Les pas d'élan de Marcus Thuram, c'est parti. C'est arrêté, c'est pas fini, Thuram de la tête à côté, voilà, c'est terminé, la balle était là, Thuram qui a manqué à Paris et qui manque là le pénalty de la dernière chance, c'est comme ça et ça devait s'arrêter comme ça.
Le 5 juillet 2017, quand son transfert est annoncé, c'est d'abord son nom qui résonne. Thuram. À cet instant, l'esprit des supporters guingampais percute. Thuram, c'est 98, la Croatie, c'est 2000, c'est 2006, c'est Parme, la Juve, le Barça. Mais Thuram, à l'aube d'une cinquième saison en Ligue 1, c'est Marcus. Ce grand jeune homme de 19 ans, 1m92, au regard malicieux et à la bouille farceuse. Thuram à Guingamp, c'est aussi un paradoxe, comme un coup de foudre inachevé. Des débuts volontaires, un jeune un peu brut avant une progression fulgurante, des chevauchées dévastatrices devant les Meuniers ou Dani Alves porté par un roudourou en fusion, un impact de plus en plus clair, un poids de plus en plus lourd à porter, parfois trop lourd. Thuram à Guingamp, c'est l'histoire de la plus grande éclosion d'un talent depuis près de 20 ans, depuis Drogba, sans trop de doute. Thuram à Guingamp, c'est l'histoire d'un je t'aime moi non plus, un talent certain mais des adieux amers, un titre qui s'envole pour une poignée de tirs au but, une relégation le jour d'un pénalty raté. Un dernier but à Roudourou marqué par quelques sifflets traduisant autant l'imbécilité et l'incompréhension que la douleur d'un échec que ni les supporters ni le joueur ne méritaient. Thuram à Guingamp, c'est donc un mélange de sentiments. Une étoile filante qui a parfois illuminé très fort le Roudourou, mais qui a survolé le club sans doute au mauvais moment. Ce podcast Gwen Gamb Classique va vous replonger dans ces deux années intenses avec l'intervention de quelques-uns de ses coéquipiers, ses potes. Thuram à Guingamp, c'était de 2017 à 2019 jusqu'à l'équipe de France. Thuram à Guingamp, c'est aussi maintenant. Bonjour Marcus Thuram.
Bonjour, bonjour Pierre, tu vas bien ?
Tout va bien, je te retourne surtout la question parce que tu es blessé en ce moment, tu vois le bout du tunnel je crois.
Oui, oui, c'est après la trêve internationale, normalement je pourrais reprendre les entraînements collectifs.
Oui Gaëtan.
Oui, et vous l'avez entendu, donc Marcus Thuram, c'est lui l'invité du nouveau podcast des déchaînés du football, l'ancien Guingampais de 2017 à 2019, deux saisons de Ligue 1, celle évidemment de la relégation et de la finale de Coupe de la Ligue perdue, mais celle aussi notamment de sublime but pour Thuram à l'époque, lui qui a depuis pris la direction du Borussia Mönchengladbach en Allemagne. D'ailleurs l'année dernière il s'était fait remarquer en marquant deux buts but, hein, Ligue des Champions contre le Real Madrid de Zinedine Zidane. Alors les podcasts, vous connaissez maintenant parce qu'il y en a eu plusieurs déjà depuis le Covid, hein, notamment on avait commencé à en faire avec Pierre à cette période-là. Il y en a eu, vous pouvez tous
les retrouver. Il y en a depuis très longtemps, mais des spécifiques aux anciens matchs de Guingamp, oui, effectivement, ça date du Covid.
Avec notamment le dernier en date, je crois que c'était sur Mamadou Samassa, sans doute, hein, le dernier avant celui sur Marcus Thuram. Celui-là, il est découpé en 5 parties. Son arrivée à Guingamp, Marcus Thuram, en 2017. Ses débuts, évidemment, en Ligue 1, parce qu'à l'époque, c'était un minot. Il arrivait de Sochaux, il avait gagné la Coupe Gambardella, c'est-à-dire la Coupe de France des jeunes, des U19, avec Sochaux. Fait ses débuts en Ligue 2, et donc à Guingamp, il découvrait l'élite du football français. Son éclosion, ensuite, parce que c'est aussi à Guingamp que c'est... qualité et capacité ont vraiment explosé au grand jour. Son appétit pour les gros clubs, c'est aussi l'un des chapitres de ce podcast, parce que c'est un joueur qui aimait beaucoup marquer contre les belles équipes, notamment contre le Paris Saint-Germain. Il avait aussi marqué en demi-finale de Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco, également contre Monaco en championnat. Voilà, c'est un joueur qui aimait aussi cet appétit des grands matchs. Il l'explique d'ailleurs dans ce podcast. Et puis évidemment, les difficultés, parce que ce passage de Thuram à Guingamp, comme l'expliquait Pierre dans l'intro que vous venez d'entendre, c'est un peu le je t'aime moi non plus, avec un joueur pétri de qualité, parfois adoré, parfois mal aimé, parce que ces qualités-là pouvaient aussi se retourner contre lui. On se souvient du pénalty évidemment manqué à Rennes, celui qui a emmené Guingamp en Ligue 2 à l'époque. Enfin, c'est pas ce pénalty-là qui emmène Guingamp, mais c'est celui qui scelle le sort définitivement des Guingampais sur cette saison 2018-2019. Pour vous faire patienter, 3 extraits de ce podcast qui sera donc mis en ligne sur le site de Radio Bonheur mercredi. Quelques-uns de ses ex-coéquipiers à Guingamp interviennent d'ailleurs dans cet épisode. Chacun pose une question. Voici la première sur son arrivée dans les Côtes d'Armor. Extrait.
Alors, tu commences donc à Sochaux. Tu as ton premier contrat professionnel en 2015, il me semble. Tu y restes jusqu'en 2017. Et puis donc, en juin, juillet, tu arrives à Guingamp. L'officialisation, c'est le 5 juillet. Ouais. À quand remontent les premiers contacts?
Ça s'est fait l'été même à laquelle j'ai signé. Après la saison, je suis parti en vacances et j'avais envie de découvrir la Ligue 1, quoi. Et papa me dit que il y a un club qui serait intéressé fortement, parce qu'il y a des clubs qui s'intéressent toujours, mais vraiment un club qui fait une offre et qui est vraiment intéressé par le joueur, et il m'a dit que c'était Guingamp.
Et là, je passe la parole à un joueur que tu connais très bien, un ami même, je pense, qui se mue en journaliste pour l'occasion.
Et j'ai une dernière petite question aussi, qui est très simple. Pourquoi être venu à Guingamp? Pourquoi as-tu choisi Guingamp? Tout simplement. Bon, je sais que ton rêve était de jouer avec moi depuis qu'on est petit, mais... Pourquoi Guingamp? Allez, des bisous.
Les bisous de Ludovic Blas, c'était la raison principale pour laquelle tu es arrivé dans le 22?
C'est pas la raison principale, mais en tout cas, c'est une raison qui m'a conforté, vu que Ludo était un joueur majeur de l'équipe de France depuis U17 jusqu'à U19 quand on remporte l'Euro. C'est un joueur majeur, un joueur... moi, je suis en Ligue 2, donc moi, je vois Ludo comme un joueur qui fait ses premiers pas en Ligue 1, un joueur très technique, habile. Et donc, moi, je cherche cette performance, quoi, ce devenir un joueur comme Ludo, jouer en Ligue 1 et pouvoir prouver en Ligue 1. Donc, et comme il vient de la même région que moi, à Paris, dans le 92, et qu'on avait souvent joué ensemble étant petit, je me suis dit, ça tombe bien d'aller dans le club où je connais Ludo et où il y a Marcus Coco aussi.
Et la signature de Marcus Thuram à Guingamp en 2017, c'était donc aussi une histoire d'amitié avec Ludovic Blas, qu'il avait côtoyé plus jeune. Marcus Thuram, il avait aussi cette faculté à briller dans les grands matchs. On le disait il y a un instant, contre Paris, Lyon ou Monaco, il a parfois marqué sur ces matchs-là. Il revient d'ailleurs dans ce passage sur cette particularité à réussir contre les gros. Écoutez Marcus Thuram et les grands matchs.
On en arrive à la quatrième partie, Marcus Thuram, de ce podcast Gwengom Classique. Et après l'éclosion, il y a donc ce fait que l'on voyait et cet appétit aussi qui venait dans nos esprits quand Guingamp jouait les gros. Tu te sublimais, tu nous l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, on va gratter un petit peu sur ce sujet. On dit souvent que les grands joueurs brillent dans les grands matchs. Tu es donc un grand joueur ?
Non, les grands joueurs, ils brillent tous les matchs. Les joueurs spectacles, peut-être ils brillent contre les gros, c'est vrai, mais j'ai compris que il y a plus de matchs normaux, on va dire, dans le championnat que contre les gros, donc c'est dans les matchs normaux qu'il faut faire ses preuves. Mais bon, à Guingamp, j'étais dans un autre état d'esprit. J'étais vraiment, quand je jouais contre les gros, j'étais dans un état d'esprit où il fallait que je prouve que je peux jouer dans ces équipes-là. Et c'est pour ça que j'abordais le match de différentes manières.
On voyait souvent ton papa Lilian au stade, et ce peu importe le match, hein, que ce soit contre Strasbourg, Reims ou autre, il était très très souvent là. Lui ne faisait pas quelques petites réflexions justement lors de ces entre guillemets petits matchs ou matchs normaux, comme tu disais ?
Non, parce que mon père, il me connaît depuis que je suis petit, il connaît ma personnalité, il sait que dans les grands moments, je me sublime parce que c'est ma personnalité de vouloir prouver quand on pense que je peux pas, et donc quand personne m'attend dans les matchs peut-être un peu moindres, j'ai des performances un peu moindres aussi. Mais lui, il me connaissait, il savait que petit à petit j'allais comprendre. On en a discuté à la fin de la première saison à Guingamp, on en avait discuté. Mais rien d'agressif, juste une discussion de père et de fils.
Une discussion qui avait permis donc à Marcus Thuram la saison suivante bien d'éclore véritablement, parce que c'est là qu'il avait terminé meilleur buteur de Guingamp en Ligue 1 cette saison 2018-2019. Un écran publicitaire, le dernier de ce magazine, et on revient pour le dernier chapitre. À tout de suite.
Et on aura Pierre en direct.
En plus.
Qu'est-ce qu'il a ?
On lui a dit que le mardi chez Domino's, c'était mardi fou. Toutes les pizzas médium et large à emporter sont à 7,99€. Il a pété les plombs.
Ah oui, chez Domino's, c'est fou le mardi.
Domino's. Prix conseillé à emporter hors signature. Conditions et Domino's participants sur dominos.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Fini les nuits rythmées par le tambour de votre machine à laver que vous avez lancé juste avant de vous coucher, pensant faire quelques économies. Désormais, vous pouvez compter sur Linky, le compteur qui vous donne accès à des offres adaptées à votre mode de vie, quel que soit votre fournisseur d'électricité. Linky, le compteur qui compte avec Enedis.
Pour une installation gratuite, rendez-vous sur enedis.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Écoutez attentivement le cœur de ce dirigeant. Il bat au rythme de sa PME et de ses collaborateurs. Il bat au rythme des épreuves passées et des défis à venir. Il ralentit quand ses salariés souffrent et accélère quand il les voit sourire.
Plus que jamais, Malakoff Humanis est à l'écoute des attentes des TPE et PME. Protection santé, prévoyance et épargne, nous avons des solutions pour vous aider et pour mieux protéger les salariés de votre entreprise. Offre soumise à condition, plus d'informations sur malakoffhumanis.com.
Nous, c'est About You. Bien plus qu'une nouvelle adresse mode, About You, c'est une nouvelle expérience. En fait, on est un peu comme votre propre boutique de mode, avec tous les styles que vous aimez. En plus, la livraison et le retour sont toujours gratuits pendant 100 jours. Alors à tout de suite sur aboutyou.com.
Allez, le magazine des déchaînés du football pour la dernière ligne droite, parce qu'il est déjà 20h et 20 minutes, vous l'avez compris, dans cette dernière demi-heure, nous essayons de vous mettre l'eau à la bouche pour pouvoir écouter bientôt le nouveau podcast sur le site internet de Radio Bonheur, podcast consacré à Marcus Thuram et préparé par Pierre-Henri Dufay, qui est avec nous d'ailleurs, on a réussi à le récupérer. Alors, il n'est pas avec nous en studio ce soir, il est parti en Italie pour quelques jours, le Vénard, passer quelques jours de vacances et puis voir le match d'hier soir avec la victoire de l'équipe de France. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir Gaëtan, bonsoir à toutes bonsoir. Et à tous. Je veux dire, heureusement que je suis au téléphone parce que j'ai perdu un peu de voix hier sur le but de Benzema.
Voilà, pour une fois, ça en valait le coup.
On change un peu de costume. Oui, ça en valait le coup.
Alors Pierre, on a écouté l'introduction, évidemment, les deux premiers extraits aussi de ce podcast avec Marcus Thuram. D'où vous est venue l'idée de lancer cet enregistrement avec lui ?
Eh bien, je vous entendais parler des podcasts tout à l'heure qu'on a déjà fait. C'est vrai que c'est toujours intéressant de se replonger dans la carrière des joueurs. Au départ, l'objectif du podcast, c'était de revenir sur des époques ou des matchs. Mais c'est vrai que revenir avec un joueur sur sa carrière à Guingamp, c'est tout aussi pertinent. Je crois que le premier, ça avait été Marek Josiak. Pendant le confinement, on a vu beaucoup Gaëtan. On les avait fait ensemble avec Felipe, Samassa, Yatabaré, Beauvue, Mandane. On avait eu Bourvenec et Guy Lacombe aussi. C'est sans doute mon préféré, Guy Lacombe. C'était très intéressant. Et puis, Marcus Thuram, ça faisait un moment qu'on voulait l'avoir parce que c'est vrai que c'est un très grand talent qui a éclaté sous nos yeux, où il y a eu quelques petites contrariétés, on y revient dans ce podcast. Et pour tout vous dire, on voulait déjà faire ce podcast avec Thuram l'année dernière, en novembre, sauf que c'est tombé, tout était calé avec lui, sauf que c'est tombé au moment où il a été sélectionné en équipe de France, donc il avait un peu mieux à faire. Et là, on a profité de, bah, entre guillemets, hein, de sa blessure en tout début de saison, qui l'a d'ailleurs privé d'un transfert à l'Inter Milan pour revenir avec lui sur ses années guingampaises, parce qu'on voulait vraiment toucher au plus près ces très bons matchs, mais aussi ce paradoxe, parce que c'est un énorme talent, mais il n'a pas tout à fait conquis les cœurs guingampais, et il revient, alors non pas forcément sur sa relation avec le public, parce que lui n'a pas eu beaucoup de problèmes envers le public, mais c'est surtout sur ces petites actions parfois qui nous énervaient quand il allait un petit peu tout seul, quand il donnait pas le ballon. Il revient là-dessus, vous l'avez écouté Gaëtan, et c'est assez intéressant. On n'a pas mis tous les extraits parce que c'est comme les films, hein, si tous les bons passages sont dans les bandes annonces, c'est pas bien. Donc on essaye de doser tout ça.
Mais un des bons extraits, c'est justement le dernier que l'on va écouter, où Marcus Thuram revient sur le match qui le définit le mieux sur sa période à Guingamp. Écoutez.
Tu as joué 72 matchs à Guingamp, toutes compétitions confondues. Là, maintenant, aujourd'hui, à l'automne 2021, pour toi, si tu dois en garder qu'un seul, ce serait lequel ? Le meilleur ?
Le meilleur match ? Ah, le meilleur match, c'est Monaco en demi-finale.
Pourquoi ?
Ben, le scénario, on perd 2-0 à la mi-temps. William Vaquer se fait expulser sur une... Je crois que c'est sur moi en plus.
C'est sur toi.
Ouais, c'est sur moi, William Vaquer. On rentre 2-0, l'ambiance, le Rudouro qui ne lâche pas. On revient, Alex qui marque rapidement après la pause. Ensuite, mon but. Ensuite, on va au pénalty, je loupe mon pénalty. Il y a Kefren qui rentre. Ouais, je pense que c'est, on se qualifie, donc je pense que c'est, ouais, c'est, ça résume, ça, je pense que ça résume bien ma carrière. ça résume bien ma carrière avec Guingamp, c'est
vrai. Oh là là, Pierry pour Rodelin qui se met dans le sens du jeu, Thuram maintenant qui élimine, Jelson Martins, Thuram qui frappe! Tir au but partout, dernier tir peut-être pour Monaco, Camille Glick pour le frapper, il va la mettre plein axe, vous allez voir,
Glick sa coche, le
face à Kaya, balle de match pour Marcus Thuram, balle de finale pour Marcus Thuram qui nous a marqué un but d'anthologie, enfin à l'heure de jeu, pour être à deux partout.
Allez, Guingamp marque et Guingamp est en finale. Guingamp marque et Guingamp est en finale.
Marcus Thuram, on le dit, il est promis à un immense avenir. Écoutez le roudourou.
Il a l'occasion de marquer encore plus son passage à Guingamp. Il a l'occasion d'offrir la première finale de Coupe de la Ligue.
Je pense qu'il en a tiré suffisamment pour...
Il a marqué à Paris.
Bien sûr, au Parc en plus, là il est chez lui.
Marcus Thuram.
Il a la confiance.
À Daniel Subasic. Les pas d'élan de Thuram. C'est arrêté.
C'est mal tiré aussi.
Et voilà.
Et ouais, c'est aussi ça, Marcus Thuram
à l'image de Thuram, c'est des hauts et des bas.
Oui, il le dit lui-même, c'est toujours au moment où on a l'impression que ça va, qu'il peut tout faire basculer et tout faire chavirer pour être le chouchou, parce que franchement, Gaëtan, dans cette saison-là, il n'a plus beaucoup de rayons de soleil. Thuram a donné l'impression de porter cette équipe sur les 6 premiers mois, mais après, il s'est effondré avec tout le monde.
Oui.
Et il n'y a jamais eu cette bascule définitive, et c'est le regret qu'on a, au-delà évidemment de la relégation et de la défaite en finale de Coupe de la Ligue, mais pour lui, dans sa carrière à Guingamp, c'est cette bascule qu'il n'a jamais réussi à faire.
Ouais, cette bascule qui n'est jamais arrivée. Et puis, c'est vrai que bon, à l'époque, c'était un tout jeune joueur aussi, confier les clés du camion. Alors, vous l'entendrez, il l'expliquera mieux que moi dans le podcast. Mais confier les clés d'un camion en péril comme ça à un joueur aussi jeune, c'est vrai que c'était pas évident. Alors, il s'est dégagé un leader technique naturel, hein, Marcus Thuram, parce que dès le début de la saison et même dès la fin de saison précédente, il avait tout de suite montré de quoi il était capable, et il avait confirmé sur cette saison-là, mais que sur une partie. Et c'est vrai que finalement, cette saison-là, comme le match de Monaco, résume un peu son passage. C'est-à-dire que Thuram à Guingamp, il y a eu du très bon et il a manqué quelque chose. Maintenant, voilà, c'était un tout jeune joueur aussi qui avait besoin sans doute de grandir et qui est en train de le faire en Allemagne maintenant.
Ouais, il le dira lui-même, hein. C'est un podcast qui dure un tout petit peu plus d'une heure. Vous avez entendu déjà dans ces extraits, il y a des interventions d'anciens coéquipiers, notamment Ludovic Blas. Il y en aura d'autres, mais on va laisser un petit peu le suspense.
Oui.
Et puis voilà, il y aura aussi des extraits de commentaires. Alors il y a ceux qu'on connaît beaucoup, comme la demi-finale, vous avez entendu, mais d'autres aussi, d'autres moments un petit peu charnières dans sa carrière. Donc,
pour nos auditeurs, ce podcast sera disponible sur le site internet de Radio Bonheur, radiobonheur.com. On l'a compris, mercredi. Est-ce que vous avez un horaire à nous donner?
Pas avant midi.
Voilà,
ça sera dans l'après-midi.
Dans l'après-midi de mercredi, très bien. Bon.
Voilà, sur les réseaux sociaux, aussi dans les rubriques, parce que la rubrique dans le 22, on vous donnera 3 jours, 3 extraits sur les 3 jours qui arrivent. Et vous pourrez écouter tout ça donc à partir de mercredi, en fin de journée, après votre travail. Vous pourrez écouter ça, mais en attendant, vous pouvez aussi écouter les autres, parce que voilà, il y a 10, 15 épisodes, je crois, et avec plusieurs profils différents. Hein. On a dit, il y a les entraîneurs, Corvenec, Lacombe, il y a des joueurs de toute époque, Josiak pour les années 90, on a aussi Sikimic pour les années 2000, on a...
Bovimordan aussi, qu'on a fait en même temps, tous les deux. Les deux joueurs en même temps.
Tout comme Yatabaré et Samassa, et puis Georges Cadieu aussi, voix du foot breton qui était aussi avec nous. Je crois que c'est le dernier en date, Georges Cadieu. Et c'est toujours
dans COVID,
des moments sympas, parce que à la radio, voilà, on est un petit peu calibré, on a parfois pas trop le temps, mais là, le podcast, on n'a aucune contrainte. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, et c'est toujours ce qui est intéressant pour revenir et gratter en profondeur.
Merci.
Sur des époques bien entrées.
Merci Pierre. Justement, là on est en direct et on manque un peu de temps.
Et voilà.
On vous retrouve le week-end prochain. Quel match vous commentez le week-end prochain, Guingamp?
Nancy-Guingamp samedi et Marseille-Lorient dimanche. Je vais traverser la France.
Très bien. Merci beaucoup. Ouais, Nancy-Guingamp, ça sera à 19h, je crois, hein, samedi prochain.
Oui, c'est ça.
Et puis déplacement à l'OM à Marseille à 20h45 dimanche soir, dimanche 17 octobre. Et puis vous, Gaëtan, vous vous occuperez de l'autre match des Brestois, hyper important à Francis Leblay avec
c'est le plus important du week-end.
Ouais, avec la réception de Reims. Merci Pierre, bonne soirée, bon retour.
Bonsoir.
À très vite, à ce week-end.
Bonsoir. Un petit coup d'œil avant de se quitter sur ce qu'ont fait les filles Guingampès, Gaëtan.
Oui, et une sévère défaite, 6-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain.
Paris, hein, ouais.
Voilà, c'est un match qui aurait dû se jouer une semaine plus tôt, qui avait été reporté par rapport à la météo. Et voilà, les Guingampès qui n'ont pas su résister. Elles étaient menées 4-0 à la mi-temps, ça s'est terminé à 6. Bon, ça reste un gros client en face. Guingamp qui recevra la Lanterne Rouge samedi prochain, ici les Moulineaux, qui sera en déplacement donc à l'Académie de Guingamp pour les féminines.
Bonne soirée, Gaëtan, à demain matin.
Bonsoir, à demain.
8h35 pour la rubrique du Morbihan, du Finistère ou des Côtes d'Armor.
Morbihan et Finistère pour moi, et Pierre pour les Côtes d'Armor.
Bonne soirée, voilà. À demain.